Sans réserve, le balado.
J'ai jamais eu l'intention d'avoir un profil particulièrement visible. J'ai pas ce genre d'ambition. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire de la bonne recherche. Quand on peut apporter quelque chose qui est un petit peu utile, c'est vraiment très, très, très gratifiant.
Je me sens très à l'aise quand je vais dans des communautés que je côtoie depuis très longtemps. Mais je sais aussi que j'arrive souvent dans des endroits où il y a des grandes blessures. Donc, et que moi, je ne les ai pas connues, ces grandes blessures-là, dans ma propre vie.
Quand Marie-Pierre Bousquet traverse l'Atlantique vers le Québec pour pousser ses études en anthropologie, son parcours de vie prend une toute autre tangente. Allons à la rencontre de Marie-Pierre Bousquet.
S'ils ont envie de mettre des barrières pour se protéger, il faut que je le respecte aussi. Et ça, c'est à eux de me le dire parce que je ne le vois pas toujours.
Je suis née à Paris. Je suis arrivée pour m'installer quand je suis devenue prof, mais j'avais déjà fait une grande partie de mes études au Québec. Donc, j'ai fait mon premier long séjour comme étudiante de maîtrise au début des années 1990. Quand j'ai fini l'école secondaire complètement, et je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Et donc, j'ai fait une année de classe préparatoire pendant laquelle une de mes profs m'a fait lire des livres qui, en fait, écrits par des ethnologues, qui était une profession que je connaissais absolument pas. Elle m'avait conseillé de lire Les Derniers Rois de Thulé, qui porte sur les Inuits. Et le livre avait été emprunté à la bibliothèque. Alors j'ai pris le livre d'à côté, qui portait sur les Hopis de l'Arizona. Et j'ai lu le livre d'une traite. Et quand je l'ai refermé, j'ai dit, je veux faire ce métier-là. Je savais absolument rien sur les autochtones des États-Unis et du Canada. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Québec. Je me suis inscrite en échange à l'Université de Montréal, en maîtrise. Donc je suis arrivée pour faire mes séminaires et j'ai pris notamment des cours de Rémi Savard, qui était un des premiers à enseigner des choses sur les autochtones du Québec. Chaque fois qu'il y avait un événement autochtone en ville, j'y allais. Enfin, c'était quand même pas très loin de la crise d'Oka, hein, puisque c'était en 91-92, donc c'était des sujets qui étaient très chauds. J'ai découvert la revue Recherche amérindienne au Québec, que je connaissais très pas. J'ai été complètement dévorée. Enfin, j'ai été une lectrice archi-assidue. Et après ça, j'ai même appelé le secrétariat aux affaires autochtones du Québec, parce que je savais pas où placer les Premières Nations sur une carte. Il m'envoie une carte, en fait. Il m'a envoyé plein de documents. Donc, très gentiment, complètement gratuitement. J'ai découvert vraiment comme ça, en cherchant par moi-même. Mais il n'y avait pas beaucoup de cours hein, sur le sujet à l'université.
Quand je suis arrivée dans les cours sur les Autochtones, on était une majorité d'Européens. Les Québécois, on les comptait littéralement sur les doigts de la main. Là, on était principalement des Français, des Suisses et des Belges. Nous, on était tout nouveau, tout beau. Enfin, on avait plutôt des stéréotypes très positifs parce que les stéréotypes que j'avais, moi, c'était plutôt des stéréotypes de bandes dessinées que j'avais lues en France. Donc, je savais pas du tout tout le passif qu'il y avait ici.
Père, qu'est-il arrivé à Corbeau Hardy ?
Il a été attaqué par un grand aigle et il a perdu connaissance.
Donc, quand j'ai commencé à rencontrer du monde... Puis les premiers séjours que j'ai faits de longue durée, qui ont surtout chez les Anishinaabek, mais quand les gens me racontaient leur vision de l'histoire, ça me paraissait normal. J'avais pas de comparaison en fait à faire.
La toute première communauté que j'ai visitée, mais en touriste, celle-là, c'était Odanak. Et là, je trouvais que c'était une réserve trop urbaine. J'ai traversé la communauté deux fois, trois fois, mais je me disais, mais où la communauté? Je la trouvais pas. Et puis en fait, les gens qui m'ont dit, t'es dedans là. Et donc je trouvais que ça correspondait pas à ce que j'avais lu, notamment parce que dans les années 90, la majorité de la littérature sur les autochtones du Québec portait en anglais sur les Cris et en français sur les Inuits. Ça correspondait pas à mes... carrément ma vision exotique des choses, parce que c'est quand même l'exotique hein, qui m'a amené là-dedans. J'ai vécu un an dans une communauté Anishinaabe, puis c'est, je me suis bâti des amitiés qui existent toujours. Enfin, ça a bouleversé ma vie. Ça a complètement bouleversé ma vie. Dans ma vie, il y a un avant cette année-là et un après. Et j'ai adoré. Ça a été quand même assez difficile, parce que j'étais très loin de chez moi, et puis j'ai découvert plein de choses, des résultats de l'histoire coloniale qui m'ont giflé en pleine figure, en fait, que j'ai trouvé très, très, très dur. J'étais pas préparée à ça. J'étais préparée à aller recueillir des récits de vie de gens, là, mais j'étais pas préparée à entendre tous les effets collatéraux de cette histoire-là. J'étais extrêmement révoltée au départ. Il y avait des choses qui m'indignaient profondément. Puis avec le temps, quand vous apprenez mieux les choses, quand vous apprenez plus les nuances, et quand vous vieillissez aussi, vous vous calmez un peu. Il faut aussi apprendre à être patient et à se dire, voilà, j'ai peut-être un rôle à jouer dans la déconstruction de ce qui a été fait et dans la reconstruction de quelque chose qui est plus équitable, plus vrai, plus juste.
Dans les communautés où je travaille, les relations avec les gens sont jamais acquises. C'est pas parce qu'on a bâti des amitiés que je peux leur poser toutes les questions que je veux et puis que je peux écrire tous les articles que je veux. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il faut essayer de conserver, de choyer cette relation-là parce que il faut toujours qu'on soit dans la co-construction. C'est pas moi qui t'interroge et ensuite je fais un beau truc qui va être lu par 15 personnes. C'est vraiment se dire, OK, qu'est-ce qu'on va bâtir ensemble avec ça pour que le travail qu'on fasse soit aussi utile d'une manière parfois qu'on prévoit pas du tout. Hein. J'ai fait deux expertises pour le système de justice et j'ai été très surprise de voir que des sujets qu'a priori qui sont pas super intéressants et glamour pour le grand public, bah, ça peut aider en fait et qu'on peut gagner des procès en faveur des personnes en question, donc ça, c'est génial, ça. Quand les gens me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour se réconcilier, je dis, ben, demandez-vous d'abord si, pour se réconcilier avec quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Est-ce que vous le connaissez? Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous vous réconciliez, il ne va rien se passer du tout. Donc c'est déjà l'acte d'acquérir de la connaissance. Et c'est déjà se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc c'est toute une démarche à faire, déjà. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt grandissant et encore, je dirais encore plus depuis l'année dernière avec la découverte des tombes anonymes à côté des pensionnats. Je discute très souvent avec mes étudiants, mais beaucoup me disent qu'ils se sentent coupables. Bon, mais ça sert à rien de se sentir coupable pour des choses en plus pour lesquelles on n'était pas là et dans lesquelles on n'a pas agi. On a une responsabilité pour la transmission vers l'avenir. Mais on n'a pas de responsabilité pour le passé où on n'était pas présent. Ce qui est de notre responsabilité aujourd'hui, c'est de nous informer. Et ça, c'est notre boulot. Donc c'est ça qu'on peut faire. Et c'est, je pense que c'est vraiment la première démarche à faire.
Moi, je vois mon fils, il est à l'école primaire. Eh ben, cette année, une de ses profs lui a parlé des pensionnats autochtones, il m'a posé beaucoup de questions. Il y a du matériel pédagogique qui a été utilisé dans son école sur les pensionnats. Donc, au moment où on a fait la journée de vérité et réconciliation en septembre, il avait eu tout le mois où ils en avaient parlé. Donc là, ça veut dire que cette prof-là, elle a pris le temps de se renseigner.
Mon nom est Emmanuelle Dufour, je suis anthropologue et autrice, dessinatrice de la bande dessinée « C'est le Québec qui naît dans mon pays », carnet de rencontre de Nikoudi Akima.
On va sortir une BD aussi avec mon équipe, Emmanuelle Dufour.
J'aurais jamais imaginé le pouvoir de cet outil-là. J'aurais pas pensé, parce que d'abord je ne sais pas dessiner, et puis je suis pas une lectrice de romans graphiques ni de bande dessinée. Mais quand j'ai vu l'impact que ça avait, je me suis dit va falloir que je me saisisse de cet outil-là aussi. Donc j'ai également après fait une bande dessinée avec elle, et on l'a signée par le groupe Miyagi, qui est un groupe donc dont je fais partie et dont font partie du monde de l'Aximon, qui est notre groupe de recherche collaboratif. Et Emmanuel a dirigé la conception artistique. Donc il y a des illustrateurs et illustratrices autochtones et des illustrateurs et illustratrices québécois dedans. Mais ça a été un travail entièrement collaboratif. Je me suis dit, si ça marche, ça BDL, on va s'en servir. C'est un bon moyen de rejoindre du monde qui n'a pas forcément envie de se taper un gros pavé. Donc il faut penser à tous les publics. Il faut que le savoir sorte de manière accessible.
Sans réserve, le balado est une production de Production Mustang et Animikissi Digital Production. À la réalisation, Francis Thibault. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.